Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
Nous sommes le 14 janvier 1877 et ce soir, figurez-vous, l'Opéra Garnier à Paris a organisé son premier bal masqué qui a attiré, comme il se doit, toute la jeunesse dorée de Paris. Il est 1h30 du matin et tiens, voilà justement un couple qui en revient. Ils ont dansé toute la soirée et un fiacre les ramène chez eux, rue de Boulogne, dans le 16e arrondissement. À gauche dans le fiacre, la ravissante Eugénie Bricourt, qui a encore sur le front son masque de velours noir. Entre nous, elle est plus âgée que lui. Une bonne dizaine d'années de plus, au moins. Et lui à droite, c'est donc le jeune René Delaroche, 23 ans, qui, une fois arrivé, l'aide galamment à descendre du fiacre. Ils sont à deux pas de chez eux. Quand soudain, une ombre surgit d'une porte cochère, un homme asperge le visage du jeune homme avec le contenu d'une petite bouteille et il s'enfuit en courant.
« Au secours ! Au secours ! Je brûle ! Je brûle !»
Les hurlements réveillent le concierge, qui bondit de sa loge, les cheveux en pétard, et se précipite pour relever le jeune René, qui pousse des cris déchirants. On l'amène à l'intérieur, on asperge longuement son visage d'eau froide. Ça n'a aucun effet. Aucun. Son visage est maintenant complètement grêlé. René est défiguré.
« Mes yeux ! Mes yeux ! Je suis aveugle ! Je ne vois plus rien !»
Un docteur arrive. Son diagnostic est immédiat. Le jeune aristocrate a été victime d'une attaque au vitriol. Le poignard liquide, comme on l'appelle à l'époque. On réveille l'herboriste du quartier. Il prépare une solution apaisante. « Mais vous devriez l'emmener à l'hôpital. »«
Ah, ça, pas question. Il va s'installer ici, je vais le soigner. »
La demoiselle veut s'en occuper elle-même de son chéri. Il va tout de même à l'hôpital parce que c'est grave. Mais la police est prévenue. C'est le commissaire Gustave Massé de la Sûreté qui prend l'affaire en main. Et il est un peu surpris. Le vitriol, à l'époque, c'est assez courant. Mais plutôt dans les milieux populaires. Des femmes qui règlent leur compte à la maîtresse de leur mari. Des prostituées qui éliminent une rivale. Ça arrive. Mais du vitriol contre un bourgeois du 16e, ça c'est très rare. C'est très rare. Alors, se dit le commissaire, voyons qui sont ces gens-là. La victime et sa compagne. Elle d'abord, Eugénie Arménaïde Bricourt. C'est une cocotte, c'est une demi-mondaine, quoi. Pas une prostituée, mais disons qu'elle passe de riche en riche. Celle-là se fait parfois appeler Jeanne de la Cour, ou la veuve Gras. Et c'est pas 10 ans qu'elle a de plus que son chéri. C'est 15 ans. Un homme âgé et une femme jeune, ça arrive. Mais dans ce sens-là, c'est moins courant. Les premières heures d'enquête révèlent que le jeune René est raide dingue de son Eugénie. Ce qui d'ailleurs ne plairait guère à sa famille, vieille noblesse de Maine-et-Loire. À part ça, pas de témoin, pas de mobile. C'est pas bien parti. Dès qu'il sort de l'hôpital, le jeune René Delaroche s'installe donc chez son Eugénie, où il est couvé. Et choyé, et aussi un peu prisonnier. Son frère, par exemple, Robert Delaroche, veut venir le voir. Il se fait remballer.
René ne veut voir aucune visite.
Il essaye à nouveau, mais pendant 3 semaines, elle l'envoie bouler. Et à un cousin qui vient plaider sa cause, elle dit « S'il ose s'approcher de René, je lui mettrai quelque chose à la figure. » Allons bon. Le frère, finalement, va se plaindre à la police.
« Elle le séquestre, c'est louche !» Cette femme n'est pas innocente. Renseignez-vous, vous verrez. Songez qu'elle a 15 ans. 15 ans de plus que lui.
Le commissaire, voyez-vous, y avait déjà pensé à elle. Surtout depuis qu'il sait que c'est elle qui voulait absolument aller à ce bal de l'Opéra Garnier. Lui, il était dans son château de Touraine. Elle lui a écrit pour lui ordonner de rentrer dardard pour le bal.
Eh, que voulez-vous ? Il a obéi. Comme toujours.
Disent ceux qui n'aiment pas la dame. et ils sont nombreux. C'est pas tout. Elle a un passé, la dame. Je vous raconte en deux mots son histoire. Eugénie Bricourt est née en 1839 dans une famille pauvre de Ménilmontant, à Paris. Papa ouvrier, maman concierge. À 8 ans, elle travaille. Elle trimballe des paniers de fruits pour un épicier du quartier. 8 ans. Et là, elle se fait repérer un jour par une bonne dame du quartier. Une baronne, Madame de Palan, qui la prend sous son aile. Elle veut la sortir de la misère. Quand le commissaire Massé apprend son existence, il la convoque tout de suite, la baronne. Et elle raconte.
Écoutez, je l'ai d'abord faite baptiser, monsieur le commissaire. C'était plus convenable, non? Et puis je lui ai donné une bonne éducation, chez les sœurs. Comme je ne voulais pas donner d'argent à sa famille, à un moment, ils l'ont reprise.
Mais à 15 ans, Eugénie est revenue la voir.
Elle était ouvrière dans une fabrique, et un jour elle est venue frapper à ma porte. Je l'ai accueillie, comme ma fille. J'ai pensé que le mieux pour elle était de faire un mariage honnête.
C'est elle, la baronne, qui, quand elle a eu 16 ans, lui a trouvé son premier mari, Charles-Victor Gras, un épicier. Et la baronne a offert à l'occasion un trousseau et 3000 francs de dot. Mais très vite, Eugénie s'est ennuyée aux côtés de cet épicier qu'elle n'aimait pas et elle a pris goût à l'argent.
Que de fois ai-je ouvert ma bourse à Eugénie, monsieur le commissaire. Elle me disait être dans le malheur, alors je payais. Elle me sautait au cou, et puis elle repartait. Elle ne venait que pour l'argent. Alors un jour, j'ai dit non. Je ne l'ai plus jamais revue.
Son mari non plus ne l'a plus jamais revue. Elle a quitté le domicile conjugal, et assez vite, le pauvre Charles-Victor Gras, son mari, a eu le bon goût de mourir de maladie, la laissant veuve et éplorée. Pour la galerie. Car en vérité, elle se console très vite et elle inaugure sa vie de cocotte. À partir de ce moment-là, tous les amants sont bons à condition qu'ils soient riches. Et quand ils la quittent, elle minaude, elle réclame de l'argent.
« Me voilà seule maintenant, tu me dois bien ça !»
S'il rechigne à payer, elle le menace d'un scandale. Et elle le fait chanter avec des courriers enflammés qu'elle a gardés. Et s'il ne paye pas, elle les vole. De toute façon, elle les vole. Elle jongle avec leur portefeuille. Dans les soirées mondaines, elle se fait désormais appeler Jeanne de la Cour. Mais pour ses voisins, c'est la veuve Gras. C'est moins chic. Une femme qui a eu bas du malheur. Mais c'est le frère de René, Robert Delaroche, qui met le commissaire sur la piste d'un mobile.
Depuis 3 ans, mon jeune frère est complètement tombé sous l'emprise de cette femme. Il en est devenu fou. Il a quitté notre château de Touraine, il s'est installé à Paris. D'ailleurs, il lui écrivait chaque jour lorsqu'il était éloigné d'elle.
Votre frère est riche, monsieur Delaroche ?
Eh bien oui, nous sommes orphelins rentiers. René a été émancipé à 19 ans, il ne travaille pas, il n'en a pas besoin.
Quand il écrira ses mémoires, plus tard, le commissaire Massé dira... Dès cet instant, j'ai été persuadé d'avoir affaire à une croqueuse de diamants. Le concierge d'Eugénie se souvient d'un ouvrier qui venait de temps en temps visiter la cocotte.
« Ah, je l'ai vu rentrer le jour où M. Laroche s'est fait attaquer !»
C'est bien intéressant, ça. Le jour même. Et l'information est confirmée par une amie d'Eugénie, Caroline Chou.
« Est-ce que vous connaissez un ouvrier dans l'entourage de la dame Gras ?»«
Ah, si je connais ? Ah, pour sûr, monsieur le commissaire. C'est son ami d'enfance, c'est un fondeur, il est de Ménilmontant, comme nous. Mathieu Gaudry, qui s'appelle. »
La dame donne son adresse, 5 rue du Cygne, à Saint-Denis. Et elle enchaîne.
« Il venait chez Eugénie le dimanche. Il donnait un coup de main pour rentrer du bois, pour mettre du vin en bouteille. La première fois que je l'ai vu, c'était en novembre dernier. »
« Et quelles étaient ses relations avec la dame Gras ?»«
Pour rigoler, j'ai dit à Eugénie, « Dis, tu voudrais pas l'épouser, le Gaudry ?»« Eh ben, vous savez ce qu'elle m'a répondu ?»«
Non, poursuivez. »«
Moi, épouser ce prolétaire endimanché, tu rigoles ?»«
Ah, je vous jure, monsieur le commissaire, elle perd pas le nord, Eugénie. Mais je vais vous dire un truc. »« Cette femme est une mine d'or.
Je pense que c'est de là. Ils ont manigancé quelque chose. Lui, il était dingue d'elle. Mais elle, elle ne l'aimait pas. D'ailleurs, Eugénie, elle n'aime personne. Même pas l'autre, là, son aristo, celui qui s'est fait vitrioler. Non, elle n'aime que l'argent, Eugénie. Mais attention, hein, je ne juge pas, hein, je suis son ami. Avec une amie comme ça, Eugénie n'a pas besoin d'ennemis. En attendant, le commissaire a un nom. Son enquête avance enfin. Mathieu Gaudry. Il s'avère que c'est un ouvrier, veuf, qui élève seul ses deux enfants. Le 6 mars 1877, les hommes du commissaire Massé frappent à sa porte.
Police !
Bonjour monsieur, nous venons perquisitionner. Et c'est pas grand à l'époque, le logement d'un ouvrier. 3 minutes plus tard, ils ont trouvé ce qu'ils espéraient. Des vêtements troués, possiblement par des gouttes d'acide.
Bah, je me suis brûlé, en travaillant.
Dans le bureau du commissaire Massé, Gaudry continue à nier.
La veuve Gras ? Moi, je connais pas. Franchement, commissaire, je comprends pas ce que je fais ici. Je suis un honnête travailleur, renseignez-vous.
Et ça, on les a trouvés chez vous. Le commissaire brandit alors des lettres qu'il a écrites à Eugénie.
Oui. Bon, on est amis d'enfance, c'est tout.
Seulement ? Mais vous alliez souvent chez elle. Comment expliquez-vous qu'on vous a vu le jour où René Delaroche a été attaqué ? Et c'est là que le commissaire abat son atout. Une lettre envoyée par Eugénie quelques jours après l'agression.
La police va venir te voir. Débarrasse-toi des vêtements que tu portais. Je te donnerai 100 francs pour en acheter des neufs et surtout ne me laisse pas tomber entre les mains de la police. Je t'ai promis de m'occuper de ton fils. Ne l'oublie pas.
Mathieu Gaudry a compris que la partie est perdue. Il pleure, il craque et il se met à raconter. Quand il a perdu sa femme de maladie en 1875, il est revenu vivre à Paris, là où il est né, et il a revu Eugénie qu'il connaissait depuis l'enfance.
Ben, je l'aime depuis toujours, quoi. Un jour en novembre dernier, je lui ai écrit pour lui avouer mon amour.
Et elle lui avait répondu, viens. J'ai besoin de toi. C'est pour une affaire qui nous concerne. Prétexte auprès de ton patron, une affaire de famille. Je te paierai ton temps. Et elle lui avait expliqué son projet.
Je veux me venger d'un homme qui m'a fait perdre beaucoup d'argent quand je tenais une parfumerie, place Vendôme. Tu vas attaquer son fils avec ça. Tu vas le frapper au visage.
Et elle lui avait tendu un poing américain, en cuivre doré.
Il doit venir ce soir. Je lèverai le rideau pour te le désigner.
Et comme il hésitait, elle avait trouvé l'argument pour le convaincre.
Fais ça pour moi, et après je ferai ce que tu veux, tiens, je t'épouserai.
Ce soir-là, l'homme n'était pas venu. Mais elle n'avait pas renoncé, et quelques jours plus tard, elle avait sorti un flacon de vitriol.
Tiens, t'auras qu'à lui jeter ça, t'as à la figure.
Sur le moment, il s'était un peu emballé. Il avait tenté de l'embrasser, mais elle l'avait repoussé.
« Du courage ! Fais ce que je te dis, et dans 3 mois, je serai ta femme. »
Et il l'a fait.
« Voilà, monsieur le commissaire, je vous ai tout dit. »
Au moment d'être amené vers la prison, Gaudry fait une dernière demande.
« Est-ce que je peux emporter avec moi la photo d'Eugénie ?»«
Ce type est fou d'amour, » se dit le commissaire. Qui a déjà la tête ailleurs, parce que maintenant, c'est elle qu'il veut interroger.
Quand il arrive chez Eugénie pour un interrogatoire qu'il espère déterminant, le commissaire Massé dispose d'un atout de taille. Il a rencontré un de ses neveux, Armand Bricourt, qui travaille dans un atelier de dorure. C'est à lui qu'elle a demandé un petit flacon de vitriol pour faire les cuivres de la maison.
Quand elle voit arriver le commissaire, évidemment, Eugénie Bricourt joue les outragés.
« Quoi ? Vous me soupçonnez ? Vous êtes payé par la famille de La Roche, non ? Mais vous ne m'arrêtez pas, hein ? Vous ne me mettrez pas avec les voleuses et avec les filles ?»
Le commissaire fait le tour de l'appartement. Il furette partout. Et dans le cabinet de toilette, sur le parquet, il repère des traces sombres.
« Déclouez-moi ces lattes de parquet. Amenez-les à la préfecture pour examen. »
Les expertises montreront que le parquet a été abîmé par de l'acide, du vitriol, sans doute au moment où elle a transféré le liquide dans une fiole. Et maintenant, l'interrogatoire de madame commence. Et c'est peu dire qu'elle se rebiffe.
« Mathieu Gaudry ! Il n'était pas chez moi le soir du drame. Pourquoi voulez-vous que je reçoive un ouvrier la nuit ? Vous prenez pour qui ? Pour une cata ?»
En fouillant, les policiers ont trouvé le point américain en cuivre dont a parlé Mathieu Gaudry.
Mais c'est vous qui avez amené tout ça chez moi ! C'est une machination !
Le soir même, Eugénie Bricourt, veuve Gras, dort à la prison pour femmes de Saint-Lazare. Et le commissaire Massé déclare à la presse « Je viens d'arrêter ma première vitrioleuse !» Vous avez remarqué que jusqu'ici, dans cette enquête, il manque un témoignage important. La victime, René de La Roche. Eugénie Bricourt le protégeait. Mais maintenant qu'elle est en prison, il est temps de lui rendre une petite visite. La rencontre est un choc. René n'est plus que l'ombre du beau jeune homme qu'il était. Son œil droit, mort. Le gauche a l'allure d'un œil de poisson cuit. Et il a des cicatrices sur tout le côté droit du visage. Et ça tombe bien, il y a là un médecin en visite qui demande à parler au commissaire, en particulier. Monsieur le commissaire, c'est très étrange. Avec le traitement que je lui donne et les soins, les douleurs auraient dû se calmer. Elles ont empiré. Il a sans doute perdu son œil à cause de ça. Vous êtes en train de dire que Eugénie Bricourt a pu le rendre encore plus malade ? J'ai l'impression que cette femme est capable de tout, commissaire. Le commissaire Gustave Massé revient alors vers René de La Roche.
Vous savez que j'ai placé Eugénie en détention. Et j'ai des raisons sérieuses. Croyez-le bien. Ce n'est pas possible. Eugénie est un ange. Elle ne peut pas être coupable. D'ailleurs, j'allais lui proposer de m'épouser.
Le policier prend alors affectueusement la main de René et lui résume l'affaire. Et il lui parle notamment des aveux de Mathieu Gaudry.
Mais pourquoi ? Pourquoi ?
Mais pour vous rendre dépendant d'elle à jamais, mon petit. Elle a 15 ans de plus que vous. Elle ne voulait que votre argent. Quelque temps plus tard, dans les couloirs du palais de justice de Paris, Eugénie croise Mathieu Gaudry. Elle échappe à ses gardiens et elle se jette à ses pieds.
« Je t'en prie, ne m'accuse pas, sauve-moi, je te sauverai après !»
On la relève et Mathieu Gaudry lui murmure. « C'est trop tard, c'est trop tard. » De sa cellule, Eugénie Bricourt écrit un poème à sa victime. « Souviens-toi, pour toi j'ai souffert, René, mais sois béni. Si tu gardes dans ton cœur le nom de ton ami, si tu ne m'oublies pas, je dirai au Seigneur, écoutez ma prière, je l'aime. » Laissez-moi veiller sur lui, mon père. Je veux guider ses pas. C'est trop tard. Le jeune René de La Roche est enfin lucide. Voilà d'ailleurs ce qu'il écrit au juge d'instruction. Depuis que la nuit s'est faite pour moi, j'ai cherché à voir clair dans le passé de la femme Gras pour y trouver le mobile de son crime. Ce mobile ne peut être que l'intérêt. Arrivé sans ressources au dernier jour de sa jeunesse, il ne lui restait en perspective que le besoin ou un événement heureux pour mettre entre ses mains la fortune. Elle m'a choisi pour servir à la réalisation de son but. Je n'ai pas trouvé le sommeil pendant 30 nuits et je suis étonné qu'on puisse survivre à de pareilles douleurs. Les souffrances sont calmées, mais aujourd'hui je suis aveugle comme je le serai demain. J'aurais compris que la veuve Gras me tua. Elle a été bien plus cruelle en me laissant vivre dans les conditions où elle m'a mis et avec l'avenir qui m'est réservé. Le procès s'annonce.
qui sera très suivi par la presse française, et pas seulement, car on parle aussi de l'affaire dans les journaux de Londres et de New York, figurez-vous. Les jeunes touristes qui visitent Paris sont-ils en danger? On évoque même l'affaire à la Chambre des communes, à Londres, en Angleterre, où un député s'exclame
« Les Parisiennes, voyez-vous, sont vénéneuses !»
Nous sommes le 23 juillet 1877 et aux abords du palais de justice de la Seine, des crieurs de rue vendent la complainte de la veuve Gras. Mais heureusement la justice n'a pas d'acide dans les yeux. Le fondeur et sa complice incarcérés tous les deux. C'est le procès le plus attendu de l'année. Pour être certain d'en être, il y en a qui se sont fabriqués de fausses cartes de journalistes ou de fausses cartes d'avocats. Et au moment d'entrer dans la salle, on se bat à main nue et il y a des malaises. Le journal Les Débats écrit « Beaucoup de personnes du sexe aimable sont venues voir la scandaleuse ». Et enfin, Eugénie apparaît, en robe de soie noire et chapeau à plumes. Et elle parvient à faire illusion, même si sa belle chevelure brune a blanchi et que son visage s'est affaissé. À ses côtés, Mathieu Gaudry pleure. Près d'elle, il a l'air bien fade. Mais qu'importe, ça n'est pas lui le sujet. Le sujet, c'est elle. Quand René Delaroche, la victime, entre dans la salle, un murmure parcourt la foule. Il s'est laissé pousser la barbe pour camoufler ses cicatrices et il porte des lunettes teintées de bleu pour dissimuler son œil brûlé. Mathieu Gaudry est appelé à la barre le premier.
Vous êtes un bon ouvrier. Vous avez été un excellent soldat. Alors comment avez-vous pu commettre un acte pareil contre un inconnu?
Je n'avais aucun motif contre lui. J'étais juste fou de Madame Gras. Quand j'étais près d'elle, je ne savais plus ce que je faisais. J'étais sous sa volonté. J'ai pas su résister.
Dans le box, Eugénie secoue la tête. Et elle fait passer des petits papiers à son avocat, le roi des assises, maître Charles Lachaud. Puis commence le défilé des témoins. Une amie d'Eugénie dit se souvenir d'une phrase qu'elle aimait répéter.
« Le monde, c'est un échiquier. Les hommes sont des pions que je sais faire mouvoir, c'est tout. »
Une autre vient rapporter qu'un jour, au parc Monceau, croisant une jeune femme qui poussait un infirme dans un fauteuil roulant, elle a dit
« Ha, en voilà une qui a tout compris, tiens.
Elle a vraiment de bonnes copines. » Eugénie. Et puis René vient à la barre. Et d'une voix tremblante, il se rappelle les jours heureux où il croyait être aimé. Dans la salle, sur les bancs, les femmes sanglotent. Et soudain, Eugénie se dresse dans le box des accusés.
« Oh, René, défends-moi !»
Dans la salle, on entend crier.
« Retourne au théâtre, toi ! Retourne au théâtre !»
Le procureur Chopin d'Arnouville ouvre le feu des plaidoiries. Son réquisitoire est implacable.
20 années de luxure. Son intérêt dans cette affaire a primé sur tout sentiment. Elle ne voulait pas tuer René Delaroche. Elle le voulait dépendant d'elle, pour toujours. Vous réserverez votre sévérité pour celle dont toute la vie n'a été que cupidité et trahison.
Et pour elle, il réclame le bagne. L'avocat Charles Lachaud fait ce qu'il peut.
René Delaroche vous l'a dit. Il aurait donné toute sa fortune si ma cliente l'avait exigé. En le blessant, elle risquait de le voir mourir et de se priver de son argent. Et si elle était telle que vous l'avez décrite, aurait-elle pris ce risque?
Au troisième jour, le verdict
tombe. Eugénie Bricourt est condamnée à 15 ans de travaux forcés et son complice Mathieu Gaudry à 10 ans de prison. Elle est plus lourdement condamnée que lui qui pourtant a fait le geste. Eugénie accepte la peine avec résignation et d'ailleurs en rentrant le soir à la prison de Saint-Lazare, elle dit aux religieuses
« Maître Lachaud a fait ce qui était humainement possible, mais ma cause était sans doute perdue d'avance. »
Et Eugénie part pour le bagne. Nous n'entendrons plus jamais parler d'elle. Mais elle a lancé une mode. Dans les années qui suivent, les attaques au vitriol se multiplient. Dans la seule année 1889, par exemple, on en compte 22.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.